Festival de Locarno, dans le centre névralgique au Sopra Cinerina, avec César Diaz. Mucho gusto, buenos días.
Buenos días, bonjour.
Qui est tout souriant et en forme pour nous parler de son film Mexico 86, Mexique 86.
Ici, Mexico 86.
En italien, Mexico 86. Un film qui résonne avec le premier que l'on avait vu à Cannes, qui est reparti avec la caméra d'or, Nuestras Madres, Nos Mères, en 2019. Est-ce que ces films se sont élaborés presque en même temps? Est-ce qu'il y a une résonance dans la recherche de la justice, aussi la présence des femmes guatémaltèques pour défense de l'histoire du pays, de l'histoire de l'identité?
Je pense que c'est des films qui se parlent aussi par une question même chronologique, c'est-à-dire on pourrait penser que Maria et Marco sont les Cristina et Ernesto de Nuestras Madres, en fait. On pourrait même faire un parallèle entre les deux, c'est presque la même histoire, en fait, quelque part. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse moins, c'est les petits noyaux, enfin les noyaux familiaux, en fait, les rapports filiaux dans un contexte de dictature militaire, et comment ces contextes, ils tendent en fait ces rapports, comment ces contextes fait que ces rapports sont pas évidents, enfin pas évidents dans le sens où cette mère et ses fils, ils se connaissent pas en fait. Ces deux personnages qui sont amenés à se rencontrer, à vivre ensemble, alors que à la base ils devraient pas y être en fait. Donc du coup, et c'est des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent, que j'ai envie d'explorer parce que c'est des questions que moi je me pose et que moi j'ai envie de les partager avec le public à travers l'écran. Parce que moi je me dis, mais est-ce que notre mère, c'est celle qui avec laquelle on a un lien biologique, ou est-ce que notre mère, c'est celle qui a été là, qui nous a éduqués, gardés, aimés, et donc je sais pas, c'est des vraies questions que je me pose, donc je les partage avec les publics, et puis j'essaie de les partager d'une façon agréable avec des films et un cinéma qui m'appartient et qui m'accompagne. Donc,
un cinéma aussi qui questionne, César, et je le confirme, c'était très agréable de suivre la protagoniste, on peut dire Julia, Maria, voilà, qui change de perruque comme de mouchoir, et vraiment c'est un rôle incroyable pour Bérénice Bejo. À quel moment elle est survenue, déjà au moment de l'écriture ou ultérieurement?
Non, au moment de l'écriture. En fait, au moment de l'écriture, moi j'ai besoin d'avoir des images, des vrais gens en fait en tête. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu rendre ça concret. Et donc, j'ai cherché des actrices guatémaltèques, mexicaines. J'ai cherché dans ma tête. Il n'y a pas eu un processus de casting et tout ça. D'ailleurs, pour ces rôles, il n'y a jamais eu un casting. Et donc, j'ai découvert... J'aimais beaucoup le travail de Bérénice avec Faradi dans les passés. Moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Enfin, il y a un truc qui est très fort. Et du coup, j'ai découvert La Quiétude de Pablo Trapero. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais elle parle espagnol, c'est quoi ce bordel?
Claro, Argentina.
Ah, oui, je ne savais pas. Ah. Et donc, du coup, je me suis allé chercher. Je me suis dit, tiens, elle est argentine. Ah, tiens, ses parents ont quitté l'Argentine à cause de la dictature militaire. Ah, tiens, ça pourrait résonner chez elle.
Des éléments à partager avec Maria.
Exactement, elle pourrait avoir un rapport avec ses personnages, un rapport personnel et intime avec ses personnages. Donc du coup, on l'a contacté et on a eu un rendez-vous. Et puis elle avait lu le scénario. Et puis dans ces repas, on a parlé que de nos familles. On n'a jamais parlé du film. Et à la fin du repas, je lui ai dit, mais tu veux quand même faire... T'as envie quand même de faire le film, mais bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Donc voilà, à partir de là, c'était parti.
Et César, par histoire familiale, on comprend qu'enfant, vos parents et vous-même, vous êtes partis, vous avez fui la guerre civile, la dictature du Guatemala pour le Mexique. Et après, il y a un autre exil, une autre migration en Belgique. Mm-hmm. Donc vous avez les trois passeports. Vous avez recherché particulièrement pour ce film des comédiens, des comédiennes mexicain.
Oui, parce que l'industrie guatémaltèque est trop petite. Et donc du coup, pour tous les rôles, on ne trouvait pas tout ce qu'il fallait en fait. Deux, parce qu'on tournait aussi une partie au Mexique, donc ça faisait du sens d'avoir des gens. Trois, parce qu'il y avait des gens avec lesquels j'avais envie de travailler. Léo Ortiz Gris, moi j'ai trouvé incroyable dans Guados. Et moi je trouve qu'il y a une force. Il est à la fois drôle, touchant, attachant. Il a ces trucs qui est aussi très masculin, mais sans être un macho latino. Il a vraiment un très beau cocktail. Et puis Julieta Gurrola m'a accompagné depuis très longtemps dans la filmographie mexicaine, que ce soit de Ripstein jusqu'à sa fille. C'est une actrice qui doit avoir, je ne sais pas, 60 films. Quoi. Donc j'avais envie pour ces films d'être confronté à des comédiens qui avaient des grosses carrières, dans le sens où Nuestras Madres, c'est un film qui est construit effectivement avec Armando et Emma, c'est des très bons comédiens, mais tout le reste est construit avec, vous l'avez vu, avec Les gens du village, avec Aurelia qui est une citoyenne. Voilà, exactement, des non-professionnels en fait, qui sont devenus professionnels en faisant le film. Et donc du coup, moi j'avais envie d'avoir une expérience avec des comédiens qui du coup vous défient d'une façon différente. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes questions, c'est pas la même façon de travailler. Et donc du coup j'avais envie de m'attaquer à ça et d'être confronté à ça, parce que finalement ça, moi ça, il y a une exigence différente ça, que j'avais envie d'explorer en fait.
À propos de travail, César, je rebondis parce qu'on dit qu'au cinéma, ce qui est le plus difficile, c'est de tourner avec les enfants et les animaux. Là, il y a un enfant. Et, il est incroyable, il a un regard, il exprime des choses incroyables avec son visage, avec ses yeux. Et il semble avoir une maturité exceptionnelle pour son âge. On peut parler de Matteo Labbé qui joue justement le jeune garçon, un jeune garçon qui ne s'appelle pas César, mais qui pourrait s'appeler César.
C'est exactement ça, qui a la même coupe de cheveux que moi j'avais quand j'avais son âge.
Muy diferente de hoy. Très différente. J'ai fait presque la même.
En fait, avec Matteo, ce qui s'est passé, on a eu un long processus de casting. Il a fait plein de callbacks, ce qui était lourd, je pense, pour lui aussi. Mais Matteo est diabétique. Et je le partage parce qu'il les partage volontiers. Enfin, c'est pas un secret. Il a un diabète qui est lourd, en fait. Il a une machine en permanence. Il doit mesurer son sucre, je sais pas, 3-4 fois par jour. Enfin, et donc du coup, par ce fait-là, il a une maturité qui est responsabilisé. Et ensuite, c'est-à-dire la notion de la mort, il la comprend très bien. C'est-à-dire, il a. Et donc c'est un enfant de. Il avait 11 ans quand on l'a tourné, mais dans sa tête, il n'en a pas 11 ans. Hein. Enfin, il est bien plus âgé que ça. Et aussi parce que je pense qu'il a compris le personnage juste dans le processus du casting, en fait. Dans ces processus-là, moi, j'ai fait le choix de ne pas lui faire lire tout le scénario. J'avais fait l'erreur avec Aurelia Cahal qui joue Nicolas à Nuestras Madres. J'avais fait l'erreur, je me suis dit je ne le ferai plus. Et donc ses parents ont lu le scénario et ils ont donné leur accord, et donc du coup avec lui on a travaillé des émotions, on a travaillé son corps, on a travaillé sa voix, on a travaillé son regard, on a travaillé l'exploration justement de différents sentiments. Mais
et
sans
le langage non verbal.
Mais oui, et donc je l'ai amené dans des endroits très sombres, je l'ai amené dans des endroits très clairs, tout en gardant cette distance. À la fin de chaque séance, effectivement, en faisant ce travail des distances, en disant « c'est pas toi, c'est un personnage, tu vas sortir de là, tu reviens vers toi ». Enfin, Matteo, c'est toi et tu n'as pas ces problèmes-là. Et donc, la veille de tournage, on lui donnait juste ces lignes, en fait. Et il a une très bonne mémoire. Donc, Et moi, j'étais ravi de travailler avec. Enfin, même sur les plateaux, on était tous bluffés, en fait, parce que lui, il était capable de nous donner, de partager. Et même Bérénice, parfois même les adultes, il s'est trompé. Et lui, il rebondissait. Enfin, comme un acteur qui avait 20 ans de carrière. Et lui, il a 11 ans. C'était son premier film. Donc, il avait fait des publicités, mais rien de plus solide comme ça. Quoi.
Alors César, par rapport justement à Bérénice et Matteo, comment s'est élaboré le travail et cette relation qui se construit devant nous, puisqu'ils ne se connaissent pas, la mère et le fils se rencontrent. Il fallait éviter aussi que le public ait un peu de ressentiment ou un peu de haine pour cette femme qui a laissé son fils quand il était tout petit à la grand-mère.
Ouais. Bah, c'est surtout pour ça qu'il faut être de son côté à elle. Si on raconte l'histoire du côté de l'enfant, on juge cette femme immédiatement et on lui demande juste d'arrêter et puis s'occuper de ses gamins. Tout ce qu'il demande, c'est quelqu'un pour l'aimer et pour s'occuper de lui. Donc c'est pour ça que c'était important de rester du côté de la mère pour comprendre son dilemme, suivre son cheminement. Au tout début, je me suis dit il faut amener Matteo à Paris. Et puis il l'a envoyé chez Bérénice une semaine, un peu pour qu'ils se connaissent.
Pour découvrir la gastronomie française.
Non, mais surtout pour qu'elle sache comment elle se réveille, qu'est-ce qu'elle bouffe les matins, comment elle fait ses tartines, qui est cette femme. Qui est cette femme, comment. Et puis on a réfléchi avec des productrices et on se disait, mais en fait, non, c'est une mauvaise idée en fait. Il faut, si on fait ça, les jours 1 du tournage, ils vont avoir une intimité de dingue, ils vont bien se connaître et c'est foutu.
Et anticiper sur la réaction des autres.
Et donc on a fait justement le contraire. On a, mais... retarder au maximum
la rencontre.
Donc ils sont rencontrés 3 jours avant le tournage.
Sans tout déflorer du film, on peut parler quand même du personnage interprété par Bérénice. Elle est activiste. Et elle est émigrée, elle a fui la dictature, donc il est important, elle est sous couverture. Elle travaille au sein d'un journal, et c'est la veille de la Coupe 86 du football. Et elle aimerait pouvoir obtenir que le fameux livre de la mort qu'elle a obtenu, au départ elle ne veut pas dévoiler ses sources, soit publié, qu'on parle de ce qui se passe au Guatemala, que ça soit rendu public à l'occasion de la Coupe du Monde. Ça c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de vécu.
Non. Le livre de la mort existe, mais c'est un livre qui a été retrouvé autrement. Mmh. C'est-à-dire c'est une anthropologue américaine qui a retrouvé le livre qui a été en fait extrait par un policier. Et en fait, pour moi, ce qui est effrayant, c'est un livre qui a 128 cas, 128 personnes.
Avec les photographies, avec l'identité.
Pour moi, ce qui est important, c'est la preuve de comment tout l'appareil d'État travaille pour la répression. Pour
tuer les gens.
Systématisé, c'est-à-dire qu'ils avaient accès. Les photos d'identité, c'est les photos d'identité des cartes d'identité, ce qui veut dire que la police avait accès au registre de la population, ce qui veut dire que la mairie était dans le coup. Et donc du coup, quand on met toutes les pièces ensemble, on s'est dit, en fait, tout le monde travaille.
Tout l'État
travaille pour tuer ces gens.
À tous les niveaux d'administration.
À tous les niveaux. Et il faut juste imaginer que ça, c'est juste un tome. Et qu'il y en avait plein. Il y en avait une pièce complète qui n'existait plus, évidemment. Et donc, ils ont réussi à retrouver ça. Et donc, on a travaillé avec cet anthropologue, justement, pour rendre ces cahiers de la mort les plus crédibles et les plus fidèles à l'original. Et en même temps, on a remplacé toutes les têtes, parce qu'on voulait avoir un respect pour les victimes et pour leur histoire, en fait. Je sais pas, la mère de ma meilleure amie est dans ce cahier, par exemple. Je me voyais mal aller voir la famille que je connais depuis que je suis tout petit, pour leur dire, est-ce que je pourrais utiliser la photo de... je trouve que c'est délicat, je trouve que c'est indélicat, justement. Et donc, on a recréé ces cahiers avec nos photos à nous, mais on a gardé cet esprit-là et cette idée de tout l'État travaille à tous les niveaux de l'administration pour tuer les gens.
Et ce qui est glaçant pour le public, c'est que tout est répertorié, y compris comment ils ont été torturés, comment ils ont été assassinés. Et disons que la plupart de ces victimes, on n'a pas retrouvé les corps à l'heure actuelle.
Non, non. Il n'y en a que deux survivants. Du cahier qu'on connaît, il n'y en a que deux survivants. Les restes, ils ont été tous tués, en fait. Et eux, ils ne savent même pas pourquoi ils ont été épargnés. C'est-à-dire, un jour, ils les sont lâchés au plein milieu de la ville, nus, et ils sont repartis. Pourquoi ? Ils ne savent pas. Est-ce qu'ils voulaient les suivre ? Est-ce qu'ils voulaient... Et ce qui est terrible, en plus, c'est que l'organisation a été très méfiante de ces gens. C'est-à-dire, quelqu'un qui est arrêté et qui est relâché, à cette époque-là, dans ces contextes-là, c'était pas bon signe. Et donc, ils s'étaient d'un côté des parias par rapport à leurs camarades, en fait.
Qui avaient peur d'être compromis.
Exactement. Et de l'autre côté, ils connaissaient déjà l'horreur de la police. Donc, ils sont dû partir. C'est vraiment des histoires très, très dures. Et la Coupe du Monde, c'est aussi... Moi, ce qui m'effraie dans l'histoire guatémaltèque, c'est que personne ne la connaît. C'est-à-dire, on connaît Pinochet, on connaît Videla, on connaît... On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais je veux dire, en Argentine, il y a 3500 disparus. 3500. Au Guatemala, il y en a 250 000. Enfin... On s'est dit, mais
proportionnellement
c'est
par rapport
juste
à la grandeur du pays.
C'est-à-dire 250 000 dans un pays qui fait 6 millions d'habitants, c'est beaucoup de gens. Et on ne connaît rien. Et même au Mexique, on ne connaissait rien. Et donc, il y a un événement planétaire qui est la Coupe du Monde. Et à côté, on tue, on viole, on kidnappe, on torture. Et on s'en fout complètement. Donc, moi, ça m'a toujours effrayé.
Est-ce que, peut-être que je me trompe, mais par rapport au travail qu'il fait en Espagne, par rapport à toutes les personnes disparues sous le franquisme, où on sait qu'il y a plein de fosses communes, on sait qu'il y a plein de gens manquent à l'appel, il n'y a pas pu avoir de sépulture, de deuil fait. Est-ce que le Guatemala est dans cette situation toujours à l'heure actuelle ?
Oui, bien sûr. Et je pense que mon film précédent avec la Fondation d'Anthropologie, elle fait un travail formidable dans ce sens. Là, ils sont arrivés à la personne... Je pense qu'ils sont arrivés à la personne... À la 400 personnes, il y a quelques jours. Donc 400 personnes, c'est beaucoup. Enfin, et surtout, ils sont en train de créer une base de données génétique qui est très impressionnante. Et ce travail de deuil, il est indispensable. On ne peut pas fermer ce chapitre.
Il est nécessaire pour reconstruire le pays et l'identité.
Mais oui, et en plus, je pense qu'il est nécessaire de les faire au niveau individuel pour pouvoir les faire au niveau collectif. C'est-à-dire, au Guatemala, on nous a toujours demandé de nous réconcilier et de faire un deuil. Mais on parlait au peuple. Là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, si on fait pas un deuil individuel, familial, on enlève les secrets, on connaît la vérité, mais au niveau tout petit, au petit format. En commençant par les petits formats, les grands formats, il soignera jamais. Parce qu'on ne soigne pas juste allez-y, soyez des amis maintenant. Enfin, c'est pas possible.
César, je vais grouper mes questions parce que je sais que vous êtes très sollicité. Mais c'est un plaisir de vous entendre. Comment est vécue la filmographie que vous faites au Guatemala ? Comment est reçue par les autorités cette filmographie ? Ça doit bouleverser ? Ça doit déranger ?
Nuestras Madres, ça a beaucoup dérangé. Je pense que ce qui a beaucoup dérangé, c'est les discours de Cannes quand j'ai dédié le prix aux victimes. Ça avait beaucoup choqué.
La scène internationale, tout le monde était au courant.
Tout le monde était au courant. Je pense que...
Mais on ne peut plus l'éliminer, maintenant il est connu.
Oui. avec ces films, je pense que... Moi, avec ces films, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une porte d'entrée pour le public. C'est-à-dire que ces thrillers politiques, c'est-à-dire qu'il est accessible au grand public.
Et malheureusement, le propos est universel.
Exactement. Mais c'est là où je me dis que pour les Guatémalens, c'est intéressant. Parce que je pense que les Guatémaltèques, face à leur cinéma, c'est quand on dit « Oui, quand c'est un film de mémoire historique, c'est un film sur la guerre, etc. » Les gens, ils font deux pas en arrière. Or, si on dit « Non, mais en fait, c'est juste c'est un film d'espionnage, en fait. C'est French Connection, quoi. Enfin, à la Guatémaltèque. Donc, je pense que ça va être différent. En même temps, je pense qu'il y a une partie de la population qui a un discours que moi, je trouve dangereux, dans le sens où enfin, c'est ces discours qui consistent à dire il faut aller de l'avant, regarder vers les futurs, ne pas regarder vers l'arrière. Enfin,
la politique de l'autruche.
Voilà, laissons les passer dans le passé, ça ne sert à rien. Et moi, je trouve ça très dangereux parce que. Parce que si on soigne pas ses blessures, si on connaît pas cette histoire, tout le monde s'étonne que les Guatemala soit un pays hyper violent, des gens très méfiants. Bah, y a des raisons très concrètes, hein. Enfin, je veux dire.
Historico-politique.
Oui, il y a 40 ans de guerre civile dans un pays où l'impunité est roi, donc on peut tuer quelqu'un ici maintenant et il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce qu'il y a eu des militaires qui ont tué des milliers de personnes et personne ne s'est jugé. Donc si on avait jugé ces gens se sont dit « Ah, mais en fait, oui, il y a quand même une justice, un état de droit, enfin, un truc qui fonctionne. » Et donc, on peut pas juste regarder le présent et puis s'étonner que les choses aillent mal. Non, non, il y a des raisons bien concrètes, hein, on peut les énumérer et puis les suivre. Hein.
Est-ce qu'il y a cette attitude de la part de la population, de tous côtés, ou surtout ceux qui n'ont pas été, disons, inquiétés à l'époque de la guerre civile?
Moi, je pense que c'est une nouvelle génération. C'est surtout, je pense que ma génération encore est très consciente. Et on a quand même beaucoup d'éléments d'information. La nouvelle génération, c'est juste, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, les gens, les accords de paix datent de 96, fin décembre 96. Donc, les gens qui sont
nés. 96
en Belgique, en Suisse. Non, non, les gens qui sont nés, enfin, sont nés dans les années 2000, ils s'en ont rien à foutre. Enfin,
ils ont entendu des histoires au sein de la famille.
Pas tant que ça. Hein. Enfin, c'est des histoires qui ont. Il y a beaucoup de gens qui connaissent rien, qui connaissent rien à cette histoire. Et donc du coup, quand on fait des films contre Estras Madres, quand on fait des films contre La Llorona, quand on fait des films contre Mexico, bah, les gens disent non mais c'est quoi ce pays? Bah si, c'est votre pays aussi. Enfin, ça s'est passé à 50 km d'ici. Hein. Enfin, faut pas aller bien loin pour trouver une fosse commune. Hein. Donc, enfin, je veux dire, les cahiers de la mort faisaient partie des archives de la police qui sont en plein centre-ville. Enfin, donc,
À travers l'image de Maria, Julien, donc Bérénice, mais aussi dans Nuestras Madres, les femmes ont un rôle prépondérant, fondamental. Elles sont pas forcément reconnues pour ce qu'elles font, mais en fait, elles sont à la fois combatives, résilientes, pugnaces. Vous vouliez leur rendre hommage aussi à travers ces films?
Bah, je pense que c'est ce que j'ai connu toute ma
vie.
Et c'est ce que j'ai connu toute ma vie. C'est-à-dire, ces femmes-là, c'est autant les victimes de la guerre, les femmes indiennes que je suis allé rencontrer dans les montagnes, autant les camarades de ma mère, autant même les femmes de ma génération qui continuent à chercher une place dans le cinéma. Je pense à ma productrice guatémaltèque. Qui veut réaliser depuis très longtemps et qui arrive pas. Enfin, là, elle vient de faire un cours que j'espère qu'il y aura une belle vie. Mais c'est, pour moi, c'est plutôt ce que je connais. Enfin, j'ai toujours été entouré de ce genre de femmes. Et c'est ce genre de femmes qui m'ont fait grandir. Et donc, certes, leur rendre hommage, mais aussi, quelque part, leur rendre justice. Enfin, reconnaître ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et comment c'est elles qui tiennent ce pays debout. Hein, sinon, il n'existera plus. Hein.
Et grâce à vos films, César, elles ont une visibilité internationale. Pour revenir justement à Mexico 86, qui était présenté sur la Piazza, vous avez retrouvé une complice de longue date, la chef op.
Virginie Surdège.
Voilà, je n'osais pas dire le nom de famille d'Edith.
Surdège.
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 Virginie pour les intimes.
Virginie. Virge. Là, il n'y a pas que Virginie, hein. Y a une équipe autour de moi, Pilar Peredo qui fait de la déco.
Aussi pour le son, hein.
Mais oui. Laurence qui fait la perche. Pierre qui est mon premier assistant. Agathe qui est la première assistante caméra. Enfin. En tout cas, l'équipe rapprochée, ils ont lu 4-5 versions de scénario. On a bossé le film un an à l'avance, même avant les repérages. Hein. En termes de lumière, référence, texture, langage. Parce que je pense qu'il y avait un défi à trouver un langage propre au film, qui n'est pas un film d'action, mais qui a des éléments de l'action. Et donc du coup, l'espionnage, comment tourner ces scènes, quelle est la distance juste, comment est-ce qu'on est loin d'elle, est-ce qu'on est proche d'elle, est-ce qu'on sort de la voiture, est-ce qu'on sort pas de la voiture, enfin toutes ces questions là on se posait beaucoup de questions. Et puis moi, je trouve que le travail de deux, c'est précieux. C'est des collaborateurs intimes, des amis, enfin, avec lesquels j'ai envie de continuer à faire le film et à grandir. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de se parler, parce qu'ils comprennent ce que j'ai envie de faire, parce que c'est des gens qui ont un grand talent et qui les mettent au service du film et qui m'accompagnent. Et qui aussi me protège, et qui... j'ai vécu un grand moment avec eux.
À propos de voiture, on ne va pas tout dire, hein, mais il y a une scène dans le garage où Maria a changé de perruque à nouveau, a changé de maquillage, changé de lunettes, ou a ôté les lunettes, et elle attend, elle va dans un parking souterrain, elle attend, et j'ai eu très peur pour elle, je me suis dit quelle horreur, il y a une voiture qui arrive, et ça me fait penser à la scène où Monk la revit, où sa femme a été tuée dans un garage de terrain. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver à Maria? On est totalement en symbiose avec elle, dans n'importe quelle situation qu'elle vit. Et ça, c'est très, très fort. Je pense que ça tenait beaucoup aussi au jeu de Bérénice, parce que là, elle est seule dans le...
Et ça tient aussi à ce qu'on a réussi à créer avec elle.
L'atmosphère.
Cette atmosphère, et encore une fois, c'est langage. C'est-à-dire que moi, j'étais convaincu que la seule façon de comprendre cette femme, c'est d'être à côté d'elle, de lui coller et de ne pas la lâcher. Ne pas la lâcher parce que parfois, ça tient à un regard, parfois ça tient à une expression, parfois ça tient à pas grand-chose. Hein. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a fait aussi on a beaucoup travaillé avec Bérénice d'un sens, et elle a été aussi une très bonne alliée, parce qu'elle comprend le cinéma, en fait. Elle comprenait ce qu'on avait envie de faire, enfin ce que j'avais envie de faire. Et parfois, elle regardait, et puis on s'est regardé, on disait non, mais en fait, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas assez près, ou on n'est pas assez loin. Enfin, je pense que ce genre de complicité, ça vient juste quand on comprend tous ce qu'on est en train de faire, et qu'on pousse tous vers le même endroit.
Cette entente qui est au-delà de l'image, oui. Vous l'aviez quand vous avez rencontré Bérénice en discutant de plein de choses.
Oui. Voilà. Ouais. Non, mais.
Ça coulait de source.
Ça coulait de source parce que je pense qu'elle et moi, on se retrouve dans un.
Une similitude de parcours.
Exactement, et parce qu'on vit presque de la même façon les secrets de nos familles, ces non-dits de nos mères, enfin, ces trucs dans lesquels
on. L'exil.
Mais l'exil. C'est-à-dire qu'on est face, nos familles, c'est des gens qui ont été disciplinés, qui ont été entraînés pour ne rien dire et pour ne rien dévoiler. Sauf qu'à un bout d'un moment, dans l'intime, nous, on a besoin de réponses, en fait. Savoir ce qu'il fait, pourquoi...
Le silence éclate et la vérité sort.
Bah oui, et je pense que là, Bérénice et moi, on se retrouve. Et on a tous les deux cette nécessité, et en même temps, je pense que maintenant, avec le temps, parce qu'on devient grand, on va dire, on comprend que parfois les gens ils sont aussi le droit de cette heure, et qu'il faut les accepter. Et qu'il faut créer sa propre histoire à soi.
Chacun son parcours, sous caractère, en fonction de ce qu'on a reçu et ce qu'on peut faire aussi.
Oui. Et qu'on ne peut pas exiger, des autres. En disant moi j'en ai besoin, ben oui, mais on ne peut pas exiger aux autres forcément tout ce qu'on veut, et qu'il faut les respecter, et que finalement peut-être parfois il vaut mieux faire des films et puis ne pas continuer à chercher.
César, Mexico 86 a eu les honneurs de la Piazza Grande, cette présence à Locarno, comment la vivez-vous, et surtout sur la piazza avec 8000 spectateurs et spectatrices?
C'était dingue, c'était vraiment dingue. On m'avait dit que c'était magique, mais je n'imaginais pas. En fait, on a des frissons dès qu'on est en bas, parce qu'on entend les gens, en fait.
Pourtant, il y a un silence après.
Ouais, il y a un silence après, mais avant de monter sur scène, et quand on monte et qu'on voit cette piazza remplie, parce qu'elle était remplie hier soir.
Avec un ciel étoilé.
Et en plus, c'est un écran magnifique. C'est un public qui est dans le film. Et il y a à la fin de cette séquence voiture, avec une séquence de voiture, j'ai entendu un. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, on est dedans. C'est bon. C'est bon. Non, c'était magique. C'était vraiment magique.
Et est-ce que là, en accompagnant Mexico 86, vous avez déjà pensé à un nouveau projet ou pour l'instant, vous avez besoin d'accompagner ce nouveau bébé?
Non, j'ai confié. En fait, avec Nuestras Madres, je l'accompagnais partout. En me disant que j'allais pouvoir écrire dans les avions, dans les chambres d'hôtel. Et puis, c'était un gros mensonge. J'ai rien écrit, en fait. J'ai rien fait. Donc, pendant un an, j'ai rien fait. Et là, j'ai appris. Je me suis dit que si je voulais ne pas faire un film dans 5 ans, il fallait que ça soit plus près. Et en même temps, j'ai envie de faire un film en Belgique, en français. J'ai envie de retrouver des comédiens parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Je trouve que finalement, le plus gai pour moi, c'est même pas le tournage, qui est vraiment un grand plaisir, mais tout le travail en amont avec eux pour créer ces personnages, savoir qui ils sont, remplir les ellipses, créer ces backstories, imaginer ce qu'ils font avant, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, comment ils étaient. Et j'ai envie de. J'ai envie de continuer dans cette exploration de ces rapports filiaux, en fait. Père-fils, mère-fils.
Intrafamiliaux.
Oui. Je trouve que là, il y a tout un univers, encore une fois, des questions que je me pose, des questions qui m'émuent, des questions qui m'étarodent. Enfin, encore une fois, j'ai envie de les partager avec les gens, quoi.
Et là, ce sera en Belgique, mais ça va aussi mêler la grande et la petite histoire.
Je sais pas, peut-être.
Comme au Guatemala et au Mexique.
J'aimerais bien le faire. Pour moi, la France et la Belgique, c'est des territoires que j'aimerais bien explorer avec cette caméra. Mmh. Et j'ai la chance d'avoir des coproductrices françaises et belges. Donc du coup, je pense qu'elles vont m'accompagner encore.
Ojalá que sí. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Para México 86.
Muchas gracias.
Bon succès à Locarno. Muchísimas gracias por la entrevista, César.
No, gracias a ti.
Muchísimas gracias. C'est bon, on a fait le tour, non?
On a fait le tour.
Parce que je recherchais, en fait, Eugénie, je ne voyais pas.
Non,
ça va. Ça va? Voilà. Et la petite dédicace pour Azucena.
Azucena.
Y nos compartimos una cosa, casi. Tengo el cumpleaños el 21 de septiembre.
¿En serio?
Sí.
Yay.
Y como Mateo, soy diabética desde los 9 años.
Sí.